Ici 4h à Paris, 3h en temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Des bâtiments réduits en miettes pour éliminer une menace terroriste dans le camp de Jénine. L'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir détruit ses infrastructures considérées comme suspectes. Elle avance aussi le bilan de 50 terroristes éliminés depuis le 14 janvier en Cisjordanie occupée. Des empilements de tentes grouillant d'activité, soudain réduits au silence et à l'abandon dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans les environs de Goma, les camps de déplacés ont abrité jusqu'à 1 million de personnes avant de se vider subitement lors de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda sur la capitale provinciale du Nord Kivu. Le Canada va saisir l'Organisation mondiale du commerce pour tenter de bloquer les droits de douane voulus par Donald Trump. Et puis l'Union européenne veut se protéger des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Un tout premier texte en la matière est entré en vigueur ce dimanche. Pas l'ombre d'une trêve en Cisjordanie occupée, alors que le calme règne de nouveau à Gaza, l'autre grand territoire où vivent les Palestiniens subit une vaste opération militaire israélienne. Depuis le 14 janvier, elle a servi à éliminer 50 personnes considérées comme terroristes, et les gros moyens sont d'ailleurs déployés. Des bulldozers, des drones et des véhicules blindés sont à l'œuvre, et l'armée israélienne n'hésite pas à faire sauter des bâtiments suspects. Une vingtaine d'entre eux ont ainsi été rayés de la carte ce dimanche, Oriane Verdier.
Oui, voilà bientôt 2 semaines, comme vous le disiez, que les habitants du nord de la Cisjordanie occupée vivent une agression constante. Bombardements, raids de soldats israéliens accompagnés de bulldozers qui détruisent maisons, canalisations d'eau, réseaux électriques et toute infrastructure. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont une fillette de 2 ans, selon des responsables palestiniens, qui affirment que seulement 6 d'entre eux étaient des membres de groupes armés. Cette nuit, l'armée israélienne a donc annoncé une nouvelle opération contre ces groupes armées palestiniens dans le nord du territoire occupé illégalement par Israël. Au total, 20 bâtiments ont été détruits donc dans le camp de réfugiés de Jenin, selon l'agence officielle palestinienne Wafa. Le directeur de l'hôpital de la ville affirme que certains des services de son établissement ont été endommagés. Les habitants craignent d'autres explosions dans la nuit. Depuis le 7 octobre 2023, en parallèle de la guerre à Gaza, l'armée israélienne et les colons israéliens mènent des raids ciblant particulièrement les camps de réfugiés, ces villes où se sont installées les familles palestiniennes qui ont fui ou ont été expulsées de leur maison en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Israël parle de lutte contre le terrorisme, mais les Nations Unies dénoncent des déplacements forcés et des destructions massives.
Oriane Verdier, une ville qui se vide d'un million d'habitants en quelques jours à cause du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Goma et ses environs ont en effet abrité jusqu'à 1 million de déplacés, mais la capitale provinciale du Nord Kivu est tombée en grande partie aux mains du Rwanda. C'est la formule utilisée par le gouvernement congolais ce dimanche. Les forces rwandaises qui soutiennent le M23 qui avait lancé l'offensive il y a une semaine, et depuis donc, les camps ont été délaissés par les déplacés. C'est notamment le cas de Kanya Rushinya au nord de Goma, où des convois de déplacés ont été aperçus en train de regagner leur foyer, Paul Lorgerie.
Selon des témoins qui ont visité ces sites, le silence a remplacé le brouhaha des activités quotidiennes. Les tentes ont disparu et seules les roches volcaniques qui en délimitaient les contours sont visibles. Au sol, quelques sachets plastiques et habits éparpillés témoignent du passage des personnes qui avaient fui les combats. Il y a encore quelques jours, des dizaines de milliers de masures s'entassaient dans les camps de Bushagala et de Kanyaruchinya. 68 000 ménages, soit entre 300 et 400 000 personnes, y avaient trouvé refuge dans des conditions plus que précaires. Sur la route nationale 2 qui longe les deux sites, et monte vers le nord de la province, de nombreuses motos et des camions transportant des déplacés ont été aperçus. Un habitant nous a confié que, après l'arrivée du M23 et des soldats rwandais, la majorité des personnes déplacées ont regagné leur maison, probablement dans le territoire de Rutshuru. Une autre personne, qui s'était réfugiée sur un site de déplacés, nous a dit être encore hésitante. Sa maison détruite par des bombes, elle souhaiterait obtenir une aide pour sa reconstruction avant de pouvoir s'y réinstaller. Une situation qui, toujours selon des témoins, est également visible dans les sites situés à l'ouest de la ville. D'après certains déplacés, le M23 aurait mis à disposition quelques camions pour les personnes souhaitant volontairement retourner chez elles.
Paul Lorgerie, il faudra peut-être souffrir pour être riche. C'est en quelque sorte le message qu'a voulu faire passer Donald Trump ce dimanche à propos des nouveaux droits de douane imposés au Mexique, au Canada et à la Chine, puisque des conséquences pour les Américains pourraient être à attendre. Mais c'est le prix à payer afin de rendre sa grandeur à l'Amérique, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Le Canada a de son côté annoncé ce dimanche contester les droits de douane américains devant l'Organisation mondiale du commerce. Justin Trudeau, le Premier ministre démissionnaire, ainsi que le gouvernement mexicain doivent s'entretenir avec Donald Trump ce lundi matin. L'administration Trump qui compte aussi faire le ménage au sein de la police fédérale américaine. C'est ce qu'ont confirmé ces derniers jours les médias américains. Cette purge viserait des agents qui ont enquêté contre le président Karine Hutton.
L'évaluation serait en cours et la Maison-Blanche prévoirait de licencier plusieurs dizaines de policiers qui ont enquêté sur l'assaut du Capitole. Pour CNN, le choix a déjà été donné à au moins 6 hauts responsables du FBI de prendre leur retraite, démissionner ou être virés d'ici lundi demain. 20 chefs de bureau du FBI, dont ceux de Miami et Washington, seraient menacés aussi. Le Washington Post va plus loin et pense que potentiellement des centaines d'agents du FBI seront visés. Le quotidien rappelle qu'une trentaine de procureurs fédéraux ayant travaillé sur le même dossier ont déjà été limogés et le ministère de la Justice a renvoyé aussi cette semaine plusieurs fonctionnaires qui ont joué un rôle dans les poursuites contre Donald Trump. Cette purge au FBI et dans le secteur de la justice n'est pas sans inquiéter les démocrates quant à l'intégrité du futur bureau et du futur ministère. L'association des agents du FBI a condamné aussi cette épuration. Elle estime que cela affaiblira la sécurité nationale tout entière. Karine Hutton, New York, RFI.
En Allemagne, une marée humaine pour former un bouclier de la démocratie. Entre 160 et 250 000 personnes sont descendues dans les rues de Berlin ce dimanche pour dénoncer le rapprochement menaçant, selon eux, entre l'extrême droite et la droite conservatrice. Dans le viseur des manifestants, Friedrich Merz, le chef du parti chrétien-démocrate, favori pour accéder à la chancellerie après les législatives dans 3 semaines. C'est lui qui a favorisé les ententes conclues cette semaine avec l'AfD, la formation d'extrême droite sur des textes visant à durcir la lutte contre l'immigration. L'Allemagne et ses partenaires de l'Union européenne méfiants et prévoyants à propos du développement de l'intelligence artificielle. Un texte est donc entré en vigueur ce dimanche afin de réguler l'IA dans l'Union européenne. Il s'appelle l'IA Act et interdit notamment les usages de ces technologies qui menacent les droits humains. Hélène Loison.
Sont interdites certaines intelligences artificielles, notamment les systèmes de notation sociale qui existent par exemple en Chine, toutes les IA qui visent à évaluer la probabilité qu'une personne commette un crime, ou encore celles qui cherchent à identifier des personnes vulnérables. Il s'agit du premier volet de cette nouvelle loi dont l'application va se faire de manière graduelle sur 2 ans. En août, une nouvelle série de mesures visera cette fois les IA qui génèrent texte et images comme ChatGPT. Ces logiciels devront répondre à des obligations de transparence sur les données utilisées pour entrer leurs modèles et mener des audits sur leur sécurité. Les sanctions pourront atteindre jusqu'à 7% de leur chiffre d'affaires. Dans le futur, une mesure phare doit entrer en vigueur, l'interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel, notamment par les forces de l'ordre. Mais cette mesure pourra faire l'objet d'exceptions que chaque pays pourra choisir d'inscrire dans sa législation nationale. De quoi alerter les associations de défense des droits humains qui craignent que ces exceptions amoindrissent cette loi sur la régulation de l'intelligence artificielle. Hélène Loison, Bruxelles, RFI.
Et puis ce n'est pas une personne faite en chair et en os, mais en Nouvelle-Zélande, une montagne a reçu le statut de personne morale grâce à une toute nouvelle loi. L'objectif de ce changement juridique, c'est d'indemniser le peuple maori de la région de Taranaki au nord-ouest du pays pour les injustices subies pendant la colonisation et la confiscation de leurs terres. Igor Strauss.
Ne l'appelez plus Mont d'Egmont, un nom donné par l'explorateur britannique James Cook au XVIIIe siècle, mais Taranaki Monga ou Mont Taranaki, un nouveau nom, des droits similaires à ceux d'une personne et la protection de ses sommets, voilà en partie ce que propose la loi adoptée par le Parlement néo-zélandais jeudi dernier. Elle reconnaît également la vision du monde maori selon laquelle les montagnes sont des êtres vivants. L'adoption de cette loi a également été accompagnée d'excuses du gouvernement pour la confiscation du Mont Taranaki et de terres appartenant aux Maoris dans les années 1860. Nous devons reconnaître les blessures causées par des torts passés et aider les peuples autochtones à réaliser leurs propres aspirations, a déclaré Paul Goldsmith, le ministre responsable des négociations. L'accès à la montagne ne changera pas et tous les Néo-Zélandais pourront continuer à la parcourir. Le mont Taranaki n'est pas le premier élément naturel de Nouvelle-Zélande à obtenir ce statut moral. En 2014, la forêt indigène d'Urewera est devenue la première à l'obtenir, suivie de la rivière Wangani en 2017.
Explication signée Igor Strauss. C'est la fin de ce journal sur RFI. 4h10 à Paris, 3h10 en temps universel.